La disparue du boulevard Voltaire, de Pierre-Étienne Musson, lu par Jean-Christophe Lebert. Il déambule au pas de course dans les passages couverts où les badauds s'agglutinent devant les vitrines éclairées des gantiers et des confiseurs. Il peste encore contre tous ces lambins qui encombrent le passage et le ralentissent. Il retrouve le boulevard. À la hauteur du chantier du Métropolitain, il fait pression sur une planche disjointe de la palissade pour la soulever et regarder derrière, tout en réalisant l'absurdité de son geste. Que diable Marthe serait-elle allée faire du côté de cette tranchée béante et de ces montagnes de gravats ? Mais pour se donner bonne conscience et préserver les apparences aussi, il se sent obligé de remuer ciel et terre, de ne surtout rien négliger, d'explorer le moindre recoin. Ses pas déboussolés le conduisent bientôt place de la République, tandis qu'il scande dans son fort intérieur ce prénom qui désormais l'obsède. Marthe, Marthe, Marthe. Il n'ose pas pour autant le crier à voix haute. Inutile de se donner trop en spectacle et de rameuter les commères du quartier. À l'angle de la rue Sedaine, il avise pourtant une fleuriste occupée à arranger ses jardinières. « Vous n'auriez pas vu une gamine avec un manteau noir et un chapeau ? Je la cherche depuis tout à l'heure. Elle a de longs cheveux bruns et fait cette taille-là, à peu près. » mime-t-il en mettant la paume de sa main à la hauteur de son épaule en guise de toise. Le visage de la fleuriste se ferme. Toute la journée, on l'enquiquine avec des questions. « Bonjour, madame, vous pourriez m'indiquer le chemin du bureau de poste ? Excusez le dérangement, mais vous n'auriez pas trouvé un gant sur le trottoir ? La rue Popincourt, c'est loin d'ici ? » Elle vend des fleurs, pas des renseignements. « C'est votre fille ? » demande-t-elle d'un ton faussement compatissant. Albert fronce les sourcils. « Qu'est-ce que ça peut bien lui fiche que ce soit sa fille qu'il cherche ou pas ?»«
Non, celle de ma meilleure amie, mais c'est pareil. »
fait-il les lèvres pincées dans un rictus contrarié.
« Alors, vous l'avez vue ou pas ?»«
Non, désolé. » rétorque la marchande en lui tournant ostensiblement le dos. « Si vous croyez que je me souviens de tous les gens qui défilent devant ma boutique... » Albert se retient d'attraper un pot de bégonia et de fracasser sa vitrine. Ça lui ferait les pieds à cette pimbèche. La bonne femme traîne à longueur de journée sur le pas de sa porte à épier tout ce qui se passe. Mais quand on lui demande de l'aide, elle n'a évidemment rien vu et ne se donne même pas la peine de réfléchir. Non, vraiment, c'est à vous d'ébecter du genre humain. Le souffle court, Albert retourne alors devant la salle du théâtre Bataclan, à l'origine de tous ses ennuis. Le trottoir est jonché de tickets déchirés, jaunes, verts, rouges, et de papiers froissés. Il ramasse une feuille de programme et la parcourt machinalement en s'adossant à la colonne Maurice, plantée sur le trottoir comme un totem. Il tente une fois encore de rassembler ses idées. « Voyons, qu'aurais-je fait à sa place ?» Mais la panique obscurcit toujours sa raison. Il n'arrive à rien, tout s'embrouille. Déjà qu'en temps normal, la réflexion n'est pas son fort, mais là, à peine ébauche-t-il une hypothèse qu'une autre vient la chasser. C'est à en devenir cinglé. Des images fragmentées de Marthe s'incrustent dans ses rétines en surimpression de la réalité. Il s'efforce de les refouler au plus profond de lui pour les y enfermer à triple tour. Ce n'est pas possible. Il ne peut être qu'en train de rêver. Il va se réveiller bientôt de cet affreux cauchemar. Marthe va réapparaître, souriante et joyeuse, comme à son habitude. Et la vie va reprendre son cours normal. Un allumeur de réverbère heurte son épaule avec sa longue perche et le ramène à la réalité. Accompagnant la nuit tombante, le vent se lève, charriant des bourrasques de grésil et de poussière. Albert allume une cigarette et tire nerveusement dessus. Il n'a plus d'autre choix que d'aller trouver la maman de Marthe et de tout lui expliquer. Si ça se trouve, une bonne surprise l'attendra là-bas. Qui sait ? La gamine aura peut-être eu l'idée de rentrer chez elle toute seule. Après tout, il n'y a pas si loin entre Bataclan et la rue Saint-Maur. Et elle est dégourdie. Il se raccroche à cet espoir auquel, au fond de lui, il ne croit pas. Marthe n'aurait jamais agi de la sorte. Il le sait bien. Quelque chose de plus grave s'est nécessairement produit. En chemin, Albert réfléchit au discours à servir. S'il ne veut pas être accablé de reproches, il lui faudra trouver les bons mots pour expliquer comment Marthe a pu échapper à sa surveillance et se volatiliser de la sorte. Au numéro 76 de la rue Saint-Maur, il lève machinalement les yeux et observe les deux rectangles éclairés des fenêtres au cinquième étage. Il prend une longue inspiration et s'engage sous le porche de l'immeuble d'un pas traînant, les épaules affaissées sous le poids de toute la misère du monde. Jamais il ne s'est senti aussi seul, aussi misérable qu'à cet instant.